Vibrant, vibrante. Le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Je suis ravie de faire cet épisode aujourd'hui et je crois que, Carole, tu as déjà le sourire avant même de commencer à parler.
Bah, comme dans tous les podcasts, mais c'est une belle rencontre.
Exactement, aujourd'hui on va parler du sujet des maisons closes. On reçoit Caroline Senot, propriétaire des Belles Poules à Paris dans le 2e arrondissement. Alors Caroline, qu'est-ce que c'est les Belles Poules pour commencer?
Ah, alors les Belles Poules, c'est vraiment l'histoire des maisons closes, puisqu'aux Belles Poules, c'est le dernier décor de maisons closes encore existant à Paris. C'est un décor que j'ai eu la chance de découvrir par hasard. En fait, à l'époque, on a acheté pour juste un local pour mettre des bureaux. Et en fait, il s'est avéré que derrière les panneaux en bois, il y avait un décor qui datait de 1921 et qui avait été inscrit à l'inventaire supplémentaire des bâtiments de France, puisqu'il s'agit du dernier décor de maisons closes encore existant tel qu'il était à l'époque. Moi, c'est vrai, quand j'ai su ça, je me suis passionnée pour l'histoire des maisons closes. Je cherchais beaucoup d'informations sur les Belles Poules. Et l'objectif a été de réouvrir l'endroit sans la prostitution, parce que j'avais pas envie de finir en prison, on va pas se mentir, mais de vraiment partager l'histoire des maisons closes qui est souvent très méconnue et fantasmée aussi énormément. Donc c'est important de toujours en parler et de dire les bons et les mauvais côtés qu'il pouvait y avoir à l'époque.
Et toi, c'était déjà un sujet qui te passionnait avant cette découverte-là?
Pas du tout.
Pas du tout.
Ah, rien.
Donc c'est vraiment l'élément déclencheur.
Ah oui, moi le max que je connaissais de la prostitution, des travailleuses du sexe, etc., c'était Bois de Boulogne, Maréchaux à l'époque où il y en avait encore. Et je regardais ça toujours vraiment avec honte, genre pas vraiment les regarder, il y avait un sentiment très négatif. Et c'est vrai qu'à force de lecture, d'apprentissage aussi de je vais pas dire cette science, mais de ce phénomène qui faisait pendant très longtemps partie du fleuron français, eh bien en fait ça devient passionnant parce qu'il y a plein de dimensions, que ce soit historique, que ce soit social, que ce soit par rapport à la féminité, par rapport à l'exploitation des femmes. Il y a beaucoup de dimensions qui sont passionnantes quand on étudie l'histoire des maisons closes.
Mais ce qui est incroyable, parce que moi j'étais écouter ta conférence, Caroline, et que on se demande comment d'un seul coup de passer de l'informatique à tout ce savoir que tu as été accumulé sur ces maisons closes, les femmes, les travailleuses du sexe. Qu'est-ce qui a été chez toi le déclencheur de te happer comme ça? Est-ce qu'on a l'impression que tu le vis? Alors est-ce que dans une autre vie, tu as été gérante d'une maison close?
Peut-être, j'étais tenancière à une époque. Moi, en fait, c'est que j'ai commencé à découvrir en lisant, en cherchant des informations sur les Belles Poules. Donc ça a commencé pour rechercher à quoi ressemblaient les décors de maisons closes. Donc très naïvement, c'était plutôt sur l'architecture, de trouver finalement à quoi ressemblaient les Belles Poules. Et puis petit à petit, à force de lire, bah on découvre le fonctionnement de la maison, qui étaient les vrais propriétaires, au quotidien comment les femmes vivaient à l'intérieur, qui sont les clients, quels sont les fonctionnements, quels sont le réseau qui peut y avoir, la gestion d'État, la grosse hypocrisie, on va pas se mentir, de la gestion de la prostitution en France, même à l'époque des maisons closes, etc. Donc en fait, on tire un fil, mais qui il agrandit à chaque fois qu'on finit un ouvrage, parce que on va avoir des références à un autre auteur qui va avoir appréhendé une autre vision. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver vraiment des ouvrages qui racontaient l'expérience d'une prostituée dans la maison. On avait beaucoup de tenancières, on avait beaucoup de tenanciers, on avait beaucoup de policiers qui ont écrit sur le sujet, mais une vraie prostituée qui raconte son cheminement de vie à l'intérieur d'une maison, j'ai mis beaucoup de temps. Aussi, c'est simplement à cause du fait que l'illettrisme, etc., les filles n'avaient pas la possibilité aussi d'écrire des ouvrages. J'en ai trouvé, j'ai développé les recherches, et c'est vrai que finalement, à chaque fois, j'ai encore des ouvrages à lire, mais là, je fais une pause parce que c'est quand même souvent des lectures qui sont assez difficiles, qui sont très énervantes pour la condition de femme aussi. Donc, cet été, là, j'ai beaucoup lu sur la prostitution aussi actuelle, et donc là, je suis en pause. Je suis plus sur les
romans policiers.
Exactement. Plutôt à l'eau de rose, même, là, en ce moment.
Et alors, est-ce que tu peux nous faire un petit, très petit, parce que je sais que tu as fait toute une conférence et donc ça va être compliqué en un podcast de raconter toute l'histoire, mais un petit...
Les gens viennent découvrir ta conférence.
Exactement.
Il faut leur donner envie de venir
Donc alors fais-nous un petit teasing pour nous expliquer en quelques étapes un peu l'histoire.
Comment ça a commencé
oui. Déjà.
Voilà, moi pour les... Alors au Belpool, la maison a ouvert en 1880. Donc à l'époque, la maison était vraiment beaucoup plus petite puisque c'était que une partie de l'immeuble qui exploitait la prostitution et les filles. C'est en 1921 que la tenancière de l'époque, Madame Audiard, a eu l'autorisation d'agrandir sa maison et donc de créer le décor qu'on connaît actuellement. Le décor qui reste maintenant, c'est le salon. C'est là où les hommes venaient choisir les filles. La spécialité des Belpool, c'était les tableaux vivants. Alors les tableaux vivants, à l'époque, c'est les prémices du théâtre érotique où les femmes vont se mettre en valeur devant les clients en reproduisant les fantasmes de l'époque. Alors vous allez beaucoup avoir la soubrette, la nonne, bref, tout ce qui va donner envie aux clients de consommer et évidemment de monter aux étages pour faire les prestations qui vont être beaucoup plus sexuelles. Au Belpool était ouverte de 15h à 4h du matin. On sait qu'en 1931, il y avait 27 femmes qui travaillaient, réparties sur les 4 étages que faisait tout l'immeuble. Donc pour le prix de la passe, ça va pas trop vous aider, mais c'était 30 francs. Donc ce qui nous permet de savoir que c'est une maison de moyenne catégorie qui va recevoir toute la bourgeoisie parisienne. On n'est donc pas dans une des plus grandes maisons incroyables comme le One Tutu, le Chabanais ou le Sphinx qui vont être vraiment de renommée internationale où là c'est toute l'aristocratie mondiale qui vient profiter des filles et avoir de nombreuses parties fines là-bas. Mais on est quand même pas dans une maison d'abattage. Maison d'abattage, c'est horrible comme terme, mais tellement représentatif de ce qui se passe. On est entre 60 à 80 passes par jour dans une maison d'abattage. Donc ça, oui, ça c'est parce que l'État français a été assez sympa pour limiter le nombre de passes à 80. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qui a choisi ce nombre. Mais au Belpool, on va être à peu près sur une quinzaine de passes, à peu près pour les filles.
Par fille, hein, quand même.
Par fille et par jour. Oui, il faut toujours prévoir. Voilà. Et c'est ouvert à peu près, c'est ouvert tous les jours et les filles vont avoir un jour de congé par semaine quand elles ont de la chance et sinon ça peut être beaucoup moins dans ces maisons d'abattage dont on vient de parler, qui exploitaient aussi beaucoup de mineurs dans les maisons d'abattage puisqu'on a le droit de se prostituer quand on est mineur à partir du moment où on a l'autorisation du père. Donc, beaucoup de ces jeunes filles qui se sont échappées du foyer familial, dirons-nous, eh bien, vont s'annoncer comme étant orphelines. Et donc, ça va leur profiter, ça va leur permettre de pouvoir se prostituer dans ces maisons qui ne sont pas très regardantes sur la vérification de l'état civil des jeunes filles.
Je pense que...
Je vous ai un peu
plombé. J'allais dire un beau petit historique, mais ça parle déjà à la fois de conditions économiques, tu évoques déjà l'aristocratie, la bourgeoisie, donc on se représente aussi comment c'était à cette période-là. Donc.
La représentation des femmes, le travail des femmes déjà, combien, parce que c'était 30 euros, 30 francs la passe, combien elles gagnaient, elles, sur ça?
Ah oui, alors faut pas oublier que quand on rentre dans une maison, alors très souvent, moi c'est ça que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est qu'on va rentrer très souvent volontaire dans une maison, parce qu'on gagne 4 à 10 fois plus que si vous êtes vendeuse des grands magasins, ouvrière, couturière, donc forcément, il y a un intérêt à rentrer en maison, parce que beaucoup de femmes ont aussi une précarité de vie, qui fait que la dernière chose qui reste pour gagner de l'argent, bah, c'est évidemment de vendre son corps. Donc il faut savoir que 17e, 18e siècle, il y a énormément de prostitution.
C'est à partir du 17e siècle, les maisons closes, que ça a été créé ou...
Non, je ne pourrais pas te...
Il n'y a pas réellement de...
Si c'est 1804, l'ouverture des... Okay. Qu'on a légiféré vraiment en France sur les maisons closes,
d'accord.
En 1804. Donc c'est Napoléon qui a légiféré. C'est des préfets qui ont été chargés d'ouvrir ces lieux dans lesquels on pratiquait la prostitution. On appelle maison close parce qu'on obligeait les tenancières à mettre des cadenas sur les volets pour être sûr qu'on ne voit jamais les femmes de l'extérieur, parce que ça reste un métier métier, un business honteux. Et non, il ne fallait surtout pas choquer femmes et enfants qui pouvaient passer à proximité.
Donc ça vient de là, le nom.
Exactement. Il y a beaucoup d'historique sur la verbalisation autour des maisons closes qui est très intéressante. C'est pareil, c'est comme le mot bordel, en fait, qui vient de Bordeaux, de Bordelot. Parce que quand Saint-Louis a chassé toutes les prostituées de l'enceinte de Paris, elles ont été autorisées à refaire leur métier au bord de l'eau. Et en fait, c'est pour ça qu'on disait on allait au Bordeaux, au bord de l'eau.
Wow.
Et c'est là que vient le mot bordel. Il faut savoir qu'il n'y a rien de bordélique de Capharnaüm dans une maison close. C'est une organisation qui est hiérarchique, qui est quasi militaire, puisqu'il y a des horaires à respecter. Il y a donc cette fameuse hiérarchie avec le tenancier et la tenancière. Vous avez ensuite les sous-maîtresses qui vont être, j'ai plaisir à dire à chaque fois que c'est un peu les ressources humaines, en gros, celles qui vont gérer les filles, qui vont aussi augmenter la dette, parce qu'on n'en a pas encore parlé de cette fameuse dette qui est créée à partir du moment où les filles vont rentrer dans la maison. Elles vont effectivement gagner beaucoup mieux leur vie que pour certains métiers. Par contre, elles rentrent dans un système qui est fait pour les exploiter, on va dire même les saigner au maximum, puisque évidemment, les tenancières vont faire payer pour tout. Aux jeunes femmes, vont prendre leur commission au quotidien sur la nourriture, sur la gestion. On va dans beaucoup de maisons, on va faire signer une reconnaissance de dette quand la jeune femme arrive dans la maison pour son trousseau, pour ses bottes, ses collants, son déshabillé. Donc on doit déjà de l'argent. On a donc ces jeunes femmes qui n'ont pas forcément l'occasion de sortir de la maison. Et donc les tenancières vont avoir des accords avec des vendeurs ambulants qui vont venir dans la maison et présenter des catalogues ayant des prix multipliés par 3 ou par 4. Et ce bénéfice va être évidemment partagé entre la tenancière et le vendeur. Et donc tout ça crée cet engrenage de la dette où même si la jeune femme va gagner beaucoup d'argent, eh bien, au fur et à mesure des années qui passent, eh bien, vont se retrouver à devoir de l'argent à la maison et ne plus avoir la capacité ou la possibilité de sortir de l'établissement qu'elles ont pourtant choisi pour la majorité à l'origine.
On peut parler peut-être d'une chose, des maladies.
Oh, les maladies parce que...
voilà, le fait que quand elle tombait enceinte, qu'est-ce qu'on faisait d'elle aussi.
Exactement. Alors, les années 20, c'est... on va dire c'est l'âge d'or des maisons closes, mais c'est aussi l'âge d'or de la syphilis. Hein. C'est vraiment...
Juste après la Première Guerre mondiale.
Exactement. On est vraiment sur énormément de maladies, malgré le fait que, justement, quand Napoléon a ouvert ses maisons closes, il a obligé à ce que les prostituées en maison fassent des visites médicales. Donc ça peut être c'est deux fois par mois très souvent. Le problème c'est que souvent c'est fait dans un cabinet à l'intérieur des établissements. Donc on fait attention à pas trop les éclairer pour pas faciliter le travail du médecin. On ne sait pas exactement comment se transmettent les maladies. Donc les médecins vont pas forcément changer ni nettoyer leurs ustensiles entre les filles. Donc en fait ça va vraiment développer cette prolifération des maladies. Et alors la contraception existe, hein, puisque le préservatif a été inventé au XVIe siècle, mais c'est en ponce de brebis à taille unique. Au niveau du fonctionnel, c'est assez limité.
Délicat. Il fallait en mettre deux, ou je ne sais pas comment ils faisaient en fonction de la dimension du sexe.
C'est ça. Après, il y a aussi des crèmes spermicides, sauf que le problème, c'est que ça sent très mauvais. Donc pareil, le client n'est pas très d'accord pour les utiliser. Donc évidemment, il y a beaucoup de grossesses dans les maisons. Et ça, c'est une gymnastique d'esprit que j'ai eu du mal à faire et que les gens aussi, quand je donne la conférence, ont du mal. C'est qu'une femme enceinte, ça a une valeur vénale. C'est-à-dire que c'est un produit en plus... qu'on peut proposer dans la maison. Donc on va exploiter les femmes enceintes pendant la majorité de leur grossesse. Parce qu'on paye plus cher pour coucher avec une femme enceinte.
C'est un des fantasmes de certains hommes que à l'époque ils n'avaient pas de relation avec leur femme et que là du coup ça pouvait être autorisé et voir quel plaisir ça pouvait leur provoquer.
Exactement. De toute façon, les maisons sont là pour mettre à disposition les fantasmes de tous les clients, quels qu'ils soient, comment ils veulent. C'est vraiment c'est un échange de services. C'est toujours pareil. En fait, on a de l'argent, on a malheureusement des produits qui sont mis à disposition des hommes pour leur plaisir et surtout pour un échange d'argent, pour gagner beaucoup d'argent dans les maisons.
Et alors, est-ce que tu as, parce que j'imagine si tu as fait réaliser autant de documentation, de recherche sur le sujet, tu as dû découvrir aussi des anecdotes, des histoires peut-être de femmes, de clients intéressants peut-être à nous partager.
Alors après, on a beaucoup de choses grivoires sur les pratiques des hommes. Alors ça, je le fais pas trop en conférence parce que c'est difficile d'avoir le juste milieu entre ce qui est intéressant et ce qui devient après du voyeurisme, dirons-nous.
Oui, bien sûr.
Donc après, sur beaucoup de choses qui m'ont fait rigoler, c'est effectivement le rapport aux fantasmes masculins qui ont attrait beaucoup à leur enfance. Donc tout, il y a un rapport au caoutchouc. Oui, ça fait sourire, qui est assez développé parce qu'à l'époque, les couches, quand on était enfant, étaient en caoutchouc. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont développé un fantasme autour du caoutchouc, qu'on retrouve beaucoup d'anecdotes sur le sujet. Après, il y a beaucoup d'hommes qui vont se travestir aussi. Ça, c'est évidemment dans les maisons qu'on peut laisser libre cours à ses envies et à ses fantasmes. On a une des pratiques qui m'a fait beaucoup rigoler, c'était l'omelette chaude sur le ventre. J'ai toujours pas compris quel était l'intérêt, mais dans beaucoup d'ouvrages, j'ai retrouvé ces témoignages sur le fait que les hommes avaient un plaisir décuplé au fait d'avoir une omelette chaude sur le ventre.
Sur leur ventre à eux ou
sur leur ventre à eux?
Ah, c'est comme une bouillotte, hein.
Peut-être.
Ça leur fait des sensations au niveau de...
Je n'ai malheureusement pas l'explication du côté masculin pour savoir quel était l'impact psychologique ou l'intérêt de la chose.
Et alors, tu voulais dire, Carole ?
Non, mais j'allais dire que j'allais réfléchir, mais c'est comme aujourd'hui, alors on ne met plus une omelette, mais les gens se mettent du chocolat, la crème chantilly, enfin, des framboises... Donc, ça rentre dans la sexualité comme de quelque chose, comme la sexualité, ses cinq sens, ce plaisir de la bouche qui peut rentrer sur des choses...
Du goût aussi.
Du goût,
voilà.
Bien sûr. Donc, c'était peut-être l'omelette, parce qu'il n'y avait peut-être que des œufs à l'époque, il n'y avait pas de champignons.
Et alors, quand est-ce que les maisons closes ont dû être fermées ?
C'est la loi Marthe-Richard, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a fait fermer les maisons closes en 1946. Alors on l'appelle loi Marthe-Richard, mais en fait c'est parce que c'est le personnage important, emblématique de la fermeture des maisons closes qui est Marthe-Richard. Marthe-Richard, c'est un personnage assez sulfureux, très intéressant à étudier parce qu'elle a beaucoup fantasmé sa vie, donc on a beaucoup de versions de ce qu'elle a pu faire. Alors elle aurait été une des premières femmes aviatrices, elle aurait été espionne. Beaucoup pensent qu'en fait elle a été collabo. Ce dont on est sûr, c'est que Marthe Richard s'est prostituée pendant ses jeunes années à Nancy dans une maison d'abattage, de laquelle elle s'est enfuie. Et elle est montée à Paris, elle a fait deux très beaux mariages qui lui ont permis de s'élever dans la société. Et le problème, c'est que quand on est prostituée, on est inscrit dans un registre duquel il est impossible de sortir. Donc elle, qui avait changé totalement de vie, est toujours cataloguée comme étant une prostituée, c'était extrêmement difficile. Donc elle va dire plus tard que finalement, son souhait, c'était de lutter contre les conditions horribles qui régnaient dans beaucoup de maisons. En fait, en gros, ce qu'elle voulait, c'était qu'on brûle les archives de la préfecture pour sortir de cette image des prostituées. Donc c'est la loi Marthe-Richard était normalement au début assez bien faite, puisque déjà ça a été voté à Paris, c'est le Conseil de Paris qui a voté la fermeture des maisons closes. On a fermé à peu près 150 maisons parisiennes et ensuite ça s'est étendu sur l'ensemble du territoire. Là, c'est à peu près 1800 maisons qui se sont fait fermer. À l'origine, on devait reclasser les prostituées, donc leur trouver un nouveau travail. Donc, c'était dans les grandes entreprises. J'ai lu à La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations. Bref, on devait les reclasser. Le problème, c'est que dans la pratique, ça s'est pas passé du tout comme ça. Elles se sont retrouvées sur le trottoir, dans une précarité décuplée, dans une violence, dans une impossibilité d'autonomie, puisque les hommes qui les exploitaient quand même derrière n'ont pas voulu perdre leur gagne-pain aussi facilement. Donc c'est vrai qu'on a eu une gestion de la prostitution à la sortie des maisons closes qui était pas la bonne, et en tout cas qui a abandonné ces femmes à leurs conditions. De façon assez unilatérale, quoi.
Moi, j'avais une question par rapport à ces tenancières. Je ne sais pas s'il y a un pourcentage, est-ce qu'il y avait plus d'hommes ou de femmes qui tenaient ces maisons closes ? Parce que moi, ce qui m'a toujours un peu choquée, c'était que c'était l'exploitation des femmes par les femmes, qui est questionnant. Parce que c'était quand même les tenancières qui... Je pense à Madame Claude, je pense à d'autres... la tenancière de la Belle Poule, quoi, qui exploitait, qui se faisait de l'argent sur d'autres femmes, quoi.
Alors ça, c'est une obligation étatique. En fait, quand on ouvre une maison, il faut forcément être une femme. Donc ça explique très simplement pourquoi on parle de tenancière. Bon, derrière, il y a toujours un tenancier, on va pas se mentir. C'est souvent la pègre, c'est les fameux Marseillais qui vont tenir un grand nombre de maisons à Paris. Mais c'est un état de fait, en fait, pour avoir une maison, il faut être une femme de plus de 30 ans. Il faut être propriétaire ou locataire de l'ensemble de l'immeuble, parce qu'on va pas mélanger la prostitution avec des familles ou des gens bien, dirons-nous. Enfin, pour l'époque, c'est ce qu'on pensait. Donc, en fait, cette explication de l'exploitation féminine, c'est parce que on a pensé que c'était mieux si c'était des femmes qui s'en occupaient. Après, dans la réalité, les tenanciers, ils sont unis dans une union nationale. Ils ont des assemblées où ils se trouvent les meilleurs échanges de conseils. On va envoyer une jeune femme qui est un peu trop rebelle de sa maison. On va l'envoyer dans la maison d'abattage du copain pour la remettre dans le droit chemin et lui apprendre l'autorité. Donc, il y a vraiment un réseau qui est créé, qui est toléré. Et qui est assez puissant, justement, que cette union des tenanciers. C'est assez louche. Oui. Et c'est toujours ce même principe, en fait, qu'il y a sur le papier et il y a la réalité dans la pratique.
Donc, ce qui explique après tous ces réseaux de prostitution, c'est encore ces femmes qui sont exploitées, parce qu'elles étaient déjà de base dans les maisons closes exploitées.
C'est ça.
Et que quand c'est fini, bah, c'est encore d'autres personnes qui ont pris des réseaux pour. Et cette force du réseau, en fait. Hein,
c'est ça.
Dans cette prostitution qui était énorme, quoi. Parce que, en plus qu'elles étaient coincées dans leur maison, mais elles étaient aussi coincées à l'extérieur, quoi. Une fois qu'elle rentrait, c'était compliqué pour elle de ressortir, quoi.
Oui, parce qu'on a aussi ceux qu'on appelle les placeurs. Donc, c'est ces hommes qui se sont donnés comme mission d'exploiter les jeunes femmes. Ils vont aller draguer à la sortie des grands magasins, dans les bals. Ils vont identifier les filles qui ont déjà mis un pied dans la prostitution. Ça, c'est un phénomène que j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre. C'est pourquoi cette dépendance perpétuelle à l'homme. Et en fait, j'ai trouvé ça à force de lecture, c'est que les femmes à l'époque sont conditionnées à dépendre d'un homme. On dépend d'abord de son père et après de son mari. Et donc, s'il se passe un truc, s'il y a une problématique dans le cheminement de vie, eh bien, les filles vont se retrouver dans une précarité, dans une difficulté décuplée. Une femme mariée ou ayant des enfants qui se fait abandonner par son mari ou pire, qui est divorcée, pour nourrir ses enfants, la seule chose qui va lui rester, c'est d'aller se prostituer. Pareil, une jeune fille qui s'est enfuie de chez ses parents, va être coincée pour trouver de l'argent. Donc forcément, la dernière chose qui reste, c'est la prostitution. Et les placeurs, eux, vont exploiter ces jeunes femmes en leur vendant de l'amour imaginaire et surtout de beaucoup mieux gagner leur vie si elles rentrent dans la maison de leur copain Maurice, je ne sais pas. Et donc, c'est comme ça qu'elles vont rentrer dans la maison et eux prennent une com à l'entrée dans la maison de la jeune fille. Et dans beaucoup de maisons, c'est 10 jours après, si la jeune fille est encore là, ils touchent la deuxième partie de l'argent. Et vu que ces filles sont dans cet imaginaire amoureux, eh bien, il va passer toutes les semaines récupérer l'argent, une partie de l'argent de la jeune fille qu'elle aura gagnée. Puis ils ont placé comme ça plusieurs filles dans des établissements différents. Et à la fermeture des maisons, bah, ces placeurs qui vont se retrouver, ils n'ont plus leur gagne-pain. Et bah là, ils vont devenir les proxénètes, en fait. C'est eux qui vont exploiter souvent avec violence les filles sur le trottoir.
Il y avait tout ce problème de que si elles étaient violées ou si elles avaient couché avant le mariage aussi.
Exactement.
Hein, elles pouvaient plus, elles étaient plus bonnes au mariage, donc ils allaient les récupérer aussi comme ça. Et puis ils abusaient aussi, hein, ils allaient aussi à un moment donné où les dépuceler pour après leur dire bah, « t'as plus le choix maintenant ». T'es obligé de venir dans notre maison, quoi.
C'est exactement ça. Il y a un sacré système qui a été fait et mis en place. Et surtout, aucune structure, autant on a autorisé les maisons closes, autant on n'a jamais imposé une gestion interne des maisons. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'avoir une vision globale d'un fonctionnement de maison, puisque ça dépendait vraiment du bon vouloir de la tenancière et du tenancier. Donc, l'État français a failli sur cette gestion des maisons closes parce qu'on s'est arrêté à l'ouverture de la maison, à la tolérance qui était donnée d'exploiter, mais on n'a jamais dit bah, les filles devaient travailler tant d'heures, devaient être bien traitées. On n'aura jamais imposé des choses aux tenanciers et tenancières. Donc forcément qu'à l'intérieur, c'était pas bon pour les jeunes femmes, quoi.
Et alors, quelles sont les missions aujourd'hui des Belles Poules ?
Alors, bah déjà, c'est de raconter cette histoire au maximum, de la transmettre, parce que c'est ça. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé mes lectures, je me dis, mais les gens, ils sont au courant ?
Non.
Bah voilà. Et donc, ça a été cette envie... partager cette découverte, cette passion aussi. J'ai complètement changé de vie avec ce lieu qui a transformé ma vie, en fait, et cette histoire qui est pour moi passionnante à raconter. C'est vrai, quand j'ai décidé de réouvrir les Belles Poules, c'était plus dans le côté festif, parce que j'avais envie d'en faire un lieu d'événementiel, là où les gens viennent faire la fête, profiter du lieu, revivre une période terminée, mais celle des années 20, et de finalement avoir une sorte de revanche sur l'histoire négative de cet endroit qui a exploité des femmes pendant si longtemps dans des conditions encore très obscures, d'en faire un lieu qui est là pour mettre en valeur les femmes, parce que moi j'ai des danseuses burlesques qui viennent très régulièrement, dont nos petites sœurs papilles que j'adore, qui sont des danseuses chanteuses qui vont allier aussi bien le charme que le côté très coquin dans les paroles de leurs chansons, dans leur tenue, et ce qui fait qu'on a vraiment un changement total entre comment c'était avant et ce qu'on en a fait aujourd'hui, qui est un lieu déjà évidemment aussi exploité par une femme, mais qui met en valeur le corps des femmes quand elles sont là.
Donc c'est des soirées privées, c'est des soirées que t'organises pour tout le monde quand on veut venir,
c'est... Alors, c'est majoritairement de la privatisation. On va recevoir des soirées d'entreprise, de particuliers, beaucoup d'anniversaires. Et cette année, avec le Covid, enfin, l'année dernière maintenant, parce que c'est vrai qu'on est en 2022, on a beaucoup plus de mariages avec les jauges Covid qui ont réduit, où les gens font des plus petits mariages et moins traditionnels. On a beaucoup de mariages et donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir ces multitudes d'événements qui sont différents les uns des autres, mais qui restent dans un esprit festif. On fait des ouvertures au public pour les conférences. On essaye d'organiser des soirées régulièrement, mais malheureusement, en ce moment, c'est tellement compliqué avec la période du Covid.
Bien sûr.
On attend à réussir à avoir une meilleure situation de réception du public pour pouvoir ouvrir en soirée.
Comment les travailleuses du sexe de la rue, où sont les Belles Poules, ont vécu cette réouverture des Belles Poules? Quels sont les liens que vous avez avec elles?
Alors moi, c'est vrai que c'est des femmes que donc j'ai rencontrées en 2011 quand j'ai acheté. Au début, il y avait toujours, comme je vous ai dit, l'espèce de honte de pas trop vouloir déranger, de pas trop regarder. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, beaucoup plus de dialogue. J'aime à dire que ce sont mes collègues de travail, mais on travaille pas dans le même secteur. Et elles ont beaucoup accompagné mon projet, qui a été difficile à monter. L'administration française ne nous a pas du tout apporté de soutien et nous a plus mis des bâtons dans les roues pour le permis de construire. Moi, j'ai dû attendre un an et demi avant de l'avoir. Les financements, il n'y avait aucun financement d'État. Tout ça, ça a été aussi des grosses difficultés. Donc, il y avait beaucoup de moments où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été faire ça ? J'aurais mieux fait de continuer ma gestion, c'était très bien. Et c'est vrai qu'elle était là, non, c'est hyper cool, elles étaient là pour l'ouverture. C'est une forme aussi d'histoire pour elles, c'est un peu trop général de le dire, mais elles sont fières de mon projet. Souvent, quand on a les gens qui viennent en visitant Belle Poule, quand j'ai des groupes d'associations de retraités et tout qui viennent, elles les reconnaissent tout de suite et donc elles leur indiquent où sont les Belles Poules. Donc ça fait une espèce de, encore une mise en bouche, dirons-nous, pour les clients qui viennent. Moi, j'ai un super accueil de la part de ces femmes qui travaillent au quotidien dans la rue Blondel. Oui.
C'est important aussi pour ces travailleuses du sexe de pouvoir, je pense, sentir une image qui change aussi sur ce métier. Même si, bien sûr, au niveau des lois aujourd'hui, c'est encore plus ou moins interdit. Mais ça doit être aussi agréable pour elles de se dire qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce qu'elles font, qu'elles ont une place, d'arrêter d'effacer leur histoire. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante.
Oui, et c'est de les rendre, en fait, visibles. Parce que quand cette sensation, là, on les regarde pas trop, etc. Souvent, quand je donne des conférences, à la fin, on part... Ça dépend des groupes, mais on part sur la discussion de la prostitution actuellement, sur justement la gestion des filles dans la rue Blondelle, de comment ça se passe, etc. Et donc, ce simple fait de, par l'histoire, ramener à un dialogue, à une sensibilisation des gens, non pas en leur disant quoi penser, mais juste de les amener à réfléchir et au moins de leur donner la possibilité, même à la personne la plus lambda, de juste avoir cette réflexion sur la prostitution et de se rendre compte de l'hypocrisie dans laquelle on est au niveau de la gestion de la prostitution en France. C'est ça, en fait, qui est intéressant. On a tout type d'âge de personnes et on se
sent... parcours différents.
Et on sent qu'il y a un intérêt, par contre, pas forcément de solution, parce qu'on est... On n'est que nous, hein. On n'est pas, je suis pas politicienne, je suis pas sociologue. J'ai un avis évidemment sur beaucoup de choses, mais est-ce qu'il est bon? J'en sais rien. Et je trouve que c'est en continuant à s'intéresser, en écoutant les témoignages et les lectures historiques, etc., où c'est intéressant de pouvoir toujours continuer à réfléchir sur le sujet.
Mais je pense que les gens qui viennent à la conférence, s'ils avaient un jugement en passant, je pense que quand ils ressortent, ils voient les filles complètement différentes. Et du coup, je pense que pour elle, je ne sais pas, je n'ai pas été discuter avec elle, mais ça doit être plus... C'est toujours plus valorisant d'être regardée avec un regard bienveillant que quand je baisse les yeux parce que je ne veux pas voir ce qui est présent.
Exactement. Il y a déjà, on peut avoir plus de bonjour, plus de choses comme ça, ou juste, en fait, c'est une interaction avec des femmes. On dit bonjour à son épicier, pourquoi on ne dirait pas bonjour à la travailleuse du sexe qui est en bas de chez soi? Enfin, c'est...
Exactement.
C'est pas le même métier, évidemment, mais on n'a pas de jugement à porter sur ces femmes qui ont travaillé de leur corps.
Et en tout cas, pour aller, parce que là, on a parlé surtout de l'historique, au travers des maisons closes, de la prostitution également. Les choses aussi, aujourd'hui, sont différentes. Pour ça, il y a énormément de ressources à disposition. On peut rappeler la politique des putes, ce podcast-là d'intime et politique. Il y a également Charlotte Bien-Aimée, avec son podcast Un podcast à soi, qui a parlé de ces sujets. Et ce qui est important de rappeler, c'est écoutons les personnes concernées. Souvent, beaucoup de personnes prennent la parole alors qu'elles-mêmes ne le vivent pas. Et ça, je pense que c'est pour des personnes non concernées, on ne peut pas avoir un avis, un jugement, et on le répétera jamais assez dans notre podcast, sur les travailleurs et travailleuses du sexe, qui ne sont d'ailleurs pas que des femmes, il y a aussi des personnes trans et des personnes non-binaires, et que nous, en tout cas, c'est vraiment ça qu'on veut dire dans le podcast. Nous, on a un avis, bien sûr, sur le sujet, et on souhaite vraiment, arrêtons de juger, écoutons les personnes concernées. Bien sûr, il y a des histoires graves et tristes, il y a aussi d'autres histoires, et qu'on ne peut pas juste garder ce prisme négatif qu'il y a eu, bien sûr, dans l'histoire de la prostitution, qu'aujourd'hui les choses sont différentes et qu'il serait peut-être temps de changer notre regard. Et on est vraiment ravis, Caroline, de t'avoir avec nous, parce que c'est aussi en comprenant l'histoire qu'on peut faire les choses différemment aujourd'hui et apporter d'autres moyens et respecter surtout ces femmes, ces personnes trans et non-binaires qui font ce travail-là.
Moi, j'avoue, sur cette histoire des maisons closes, justement, on me demande souvent est-ce que t'es pour la réouverture ou pas des maisons closes. Et je passe mon temps à dire je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est pareil, si on fait des maisons closes, ça va être caché. C'est pareil, il faut une gestion intérieure de ce qui se passe. Que beaucoup d'études ont montré aussi que c'est pas parce qu'on va avoir des maisons closes que ça arrête la prostitution dans la rue. Quand on écoute, alors je me souviens plus de son nom, mais la présidente du STRAS, qui est très intéressante quand elle parle de la modalité de réouverture des maisons closes, où elle est plus sur une mise en commun des moyens avec une indépendance des prostituées. Et donc tout ça, en fait, est intéressant de chercher quelles sont les solutions, parce qu'on n'arrêtera pas la prostitution, hein. Faut arrêter de se voiler la face comme font beaucoup de politiques. C'est pas en interdisant, en étant comme maintenant avec des lois qui sont en réaction avec la situation qu'il y a en France, puisqu'on a commencé avec évidemment la lutte, la pénalisation du proxénétisme. Ensuite, on a eu le proxénétisme immobilier où c'est l'inverse pour lutter contre les hôtels de passe, etc. Ensuite, le problème du racolage, et maintenant en dernièrement, c'est la pénalisation du client. Finalement, la prostitution n'est pas interdite. C'est toujours le même principe. Et donc, comment être honnête avec soi-même en se disant la prostitution, c'est mal, mais en fait, finalement, c'est pas interdit. Moi, j'avoue, ça me rend un peu folle.
Mais vas-y, Carole.
Oui, non, parce qu'après, il faut aussi se mettre à la place des personnes qui vont voir un travailleuse ou une travailleuse du sexe, d'accord ? Quand on écoute les travailleuses ou les travailleurs du sexe, ils disent souvent, mais les gens viennent nous parler. Les gens ont besoin de parler. d'accord, et que l'acte sexuel, il n'est pas si important que ça, il n'est pas si perverti que ça, il n'est pas si dangereux que ça, mais c'est que les gens viennent chercher de la tendresse, viennent chercher qu'on s'occupe d'eux, qu'ils se sentent séduits. Et donc, et c'est là toute l'hypocrisie qui est partie, parce que où on peut encore imaginer que ce métier soit reconnu par un échange de services comme l'aide à la personne, voilà. C'est qu'à la fois, au plus profond, même s'il y a plein d'autres histoires, parce qu'effectivement, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi beaucoup de ça. Et ça, on n'en parle jamais.
D'ailleurs, ça me fait tout de suite penser, Carole, il y a aussi ce sujet qui est remonté depuis 2 ans, tout ce qui va être escort, travailleur et travailleur du sexe, pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui, du coup, n'ont pas accès au plaisir, au désir.
Mais en France, on n'a pas ça.
Non.
On a ça uniquement en Suisse. C'est quand même incroyable, tous les gens qui sont effectivement avec des handicaps, qui, eux, ne peuvent pas avoir accès à leur plaisir.
Très souvent, moi, en discutant avec les filles, c'est vrai qu'elles sont finalement le dernier rempart à la solitude de beaucoup de personnes qui vont être vraiment isolées dans leur quotidien et qui, finalement, n'ont que très peu d'interactions avec les autres. Et que finalement ces femmes, alors c'est les prostituées de la rue Blondel, c'est différent hein, parce qu'on n'est pas sur des réseaux, on n'est pas sur tout ça. Et donc c'est vrai que c'est une indépendance, elles ont leurs clients habituels. Je vais pas dire que c'est une vraie relation, mais il y a un échange qui est perpétuel. Et donc quand tu disais qu'on est sur une prestation de service, c'est vrai, elles ne s'arrêtent pas à la sexualité. Il y en a certaines qui vont aller dîner au restaurant. Il y a un mélange de plein de choses qui fait que c'est pour répondre à un besoin des clients.
En tout cas, on mettra bien... vous pouvez retrouver... là, vous êtes en train d'écouter notre podcast. Nous, on est en train de l'enregistrer. Vous pourrez retrouver d'autres liens de podcast dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui parlent et qui donnent la parole aux personnes concernées, aux travailleuses du sexe. Et ça, c'est super important. On est vraiment contente, Caroline, de t'avoir eue. On espère que ça vous donne envie d'aller au Belle Poule pour découvrir ce beau projet, assister à une conférence ou bien s'amuser, tout simplement.
Exactement.
Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grande Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.